On va partager ensemble quelques versets dans la parole de Dieu. Et j'aimerais faire une lecture avec vous dans le livre du Deutéronome. Dans le livre du Deutéronome, nous allons voir ensemble la recette pour le vrai bonheur. Très simple. Très simple. Et tant mieux d'ailleurs. Deutéronome chapitre 33. Et au verset 26, Deutéronome, prenez le temps de chercher, s'il vous plaît, chapitre 33, et à partir du verset 26, il est dit ceci, c'est Moïse qui prophétise en ces mots, « Nul n'est semblable au Dieu d'Israël, il est porté sur les cieux, pour venir à ton aide, il est avec majesté porté sur les nuées, le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, et il a dit « Extermine ». Israël est en sécurité dans sa demeure, la source de Jacob est à part, dans un pays de blé et de mou de vin, et son ciel distille la rosée. Et le verset qui est central pour nous ce matin, « Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leur lieu élevé. Amen. Que tu es heureux. Amen. Que tu es heureux. » Deutéronome 33, par la voix de Moïse, fait quand même écho à Genèse 49. Si vous connaissez, si vous êtes lecteur de la Bible, vous devez savoir qu'en Genèse 49, on a un petit peu la même chose, un petit peu le même passage qui est apporté dans ce sens que, cette fois-ci, ce n'est pas Moïse, mais évidemment, c'est le père de toutes les tribus d'Israël, donc Jacob qui va prophétiser sur ses enfants. À la différence, et elle est notoire, c'est que Jacob va parler de ses enfants avec grâce, mais aussi avec vérité. En ce sens qu'il va dévoiler leur nature pécheresse et leur nature ombrageuse. On aurait pu revenir sur quelques-unes de ces remarques, mais ça prendrait certainement du temps. Alors, peut-être que je peux vous citer par exemple... le verset 5, « Siméon et Lévi, son frère, leur glaive est un instrument de violence. » C'est quand même douloureux d'entendre cela. On parle de Ruben, qui sera supérieur en dignité, supérieur en puissance, mais il est impétueux malgré tout. Et puis il a commis l'irréparable, il est monté sur la couche de son père. C'est quand même des choses déshonorantes, des choses qui ne sont pas agréables. On pourrait parler de bien d'autres finalement sont là, mais rien n'est caché de leur mauvais penchant, de leur mauvais côté. Tandis que Moïse, dans cette prophétie que l'on a dans le Deutéronome, lui, on comprend que l'Égypte est passée par là, on comprend que le désert a éprouvé les caractères, a façonné les caractères, certainement. Les caractères sont différents maintenant. Alors Moïse, lui, ne veut voir que la grâce qui accompagne le peuple de Dieu. Et j'aimerais ce matin ne revenir que sur la grâce qui peut accompagner nos vies. Pour le reste, Dieu le connaît. Pour le reste, Dieu est bien au courant de comme nous sommes et combien il nous est quelquefois pénible de lutter, de se débattre dans nos propres difficultés. Oui, le peuple de Dieu avait des raisons d'être heureux. Et frères et sœurs, nous avons des raisons d'être heureux ce matin. Amen. Nous avons de grandes raisons d'être heureux ce matin. J'en ai noté quelques-unes et évidemment, il y en aurait bien d'autres. Mais si l'on considère que l'on est à l'abri, au creux de ses mains, alors vous pourrez lire toute la prophétie, toute la bénédiction qui est apportée par Moïse, mais je note par exemple au verset 3, « Tous ces saints, tous ces croyants, sont dans ta main et ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles à l'abri, au creux de ses mains. Mais un peu plus loin, il est dit que Dieu va les porter sur ses épaules, entre ses épaules, et sous-entendu près de son cœur. Verset 12, sur Benjamin, il dit « C'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. » Et puis, il est précisé, enfin, qu'il sera porté par des bras éternels, et cela, nous l'avons lu ensemble, c'était au verset 27. « Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite, protégée par ses bras, portée par son bras fort, par ses bras forts. Qu'aurait-il pu désirer de plus pour aller et venir ici-bas, pour lutter et combattre? Manifestement rien. Alors que pourrions-nous désirer de plus, nous aussi, parce qu'il est notre sauveur, il est notre rédempteur, il est notre bouclier. D'ailleurs, il sera même notre épée pour nous défendre quand les choses seront nécessaires. Il est évident que qui mieux que Moïse savait que la marche avec Dieu était une marche difficile. Qui mieux que Moïse? Quand même, au moment où on arrive au chapitre 33, on a passé plus de 33 ans dans le désert, quand même. On a passé des dizaines d'années à errer dans le désert, à tourner en rond. Moïse va bientôt voir le pays de la promesse, mais d'une manière spirituelle, autant que d'une manière prophétique. Dieu va le faire monter sur la montagne en lui disant « Contemple le pays, mais tu n'y entreras pas, mais contemple-le. » Et quand il contemplera ce pays et qu'il mourra dans cette montagne, il aura pris soin de bénir le peuple. « Que tu es heureux, Israël, que tu es heureux, peuple de Dieu. » Que tu es heureux. Alors il est évident que Moïse savait que quand on vit dans le désert, on a faim, et c'est un jour après l'autre. On a soif, et c'est un jour après l'autre. On est accablé de différentes manières, parce qu'on ne sait pas trop comment se diriger. On a besoin d'une direction, on a besoin d'une protection. Des peuples ont attaqué férocement, par surprise, par traîtrise, le peuple d'Israël. Et il nous est dit à un moment donné qu'Amalek s'est jeté sur Israël par derrière, il s'est jeté sur les plus faibles. C'est tragique quand même. Donc le peuple a souffert. Mais un jour après l'autre, le peuple devait savoir qu'il y avait un après, il y avait un lendemain. Ils ont appris à vivre certainement chaque jour comme si c'était le premier, mais aussi le dernier. Est-il possible de vivre chaque jour, bien-aimé, comme si c'était le premier? Je m'explique. Vous vous réveillez le matin, et grâce à Dieu, vous n'avez pas le poids de tout ce que vous avez vécu la veille, ou l'avant-veille, ou avant. Vous vous levez, vous êtes en pleine forme. Et là, vous dites, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que Dieu m'a réservé aujourd'hui, un jour nouveau? Sans avoir l'accablement du jour d'hier, sans avoir le fardeau, en disant « Ouais, ça va être comme hier, de toute façon. Je ne vois pas qu'est-ce qui va changer. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. » Mais vivre ce jour-là aussi, comme si c'était le dernier. On n'a pas envie de mourir, hein. Je pense que vous n'avez pas envie de mourir encore. Surtout les jeunes, hein. Non, il faudrait attendre un peu quand même. Qu'on vive un peu, quoi. Hein? Dites-moi, comme si c'était le dernier, et si Jésus revenait aujourd'hui, les derniers moments que l'on aura passés sur la terre, auront-ils été des moments de plainte ou des moments d'allégresse et de joie? C'est pas idiot, ça, hein, n'est-ce pas, comme réflexion? C'est bien d'y penser. Vivre les jours comme si c'était à la fois le premier et le dernier. Mais pour vivre, évidemment, comme cela, je pense qu'il faut être capable de s'appliquer ce texte que je vous ai mis à l'écran, même s'il n'est pas dans sa totalité. Pourquoi vous inquiétez, dira Jésus, du lendemain? Le lendemain, il aura soin de lui-même. Regardez la nature, regardez les lys des champs, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et pourtant votre Père les nourrit. Est-ce que Dieu ne les nourrit pas un jour après l'autre? Même si certains animaux ont voulu feinter comme les écureuils, donc ils amassent dans un coin, se disant « moi je prévois pour plusieurs jours ». Sauf qu'ils ne savent pas si quelqu'un ne va pas venir leur piquer leur noisette, donc c'est quand même un jour après l'autre. Animal qui se lève le matin, il ne sait pas s'il ne va pas être croqué par un plus gros que lui, hein, même s'il a fait des réserves. Hein. Un jour après l'autre, sans vous inquiéter du lendemain. J'aimerais que l'on puisse être convaincus ensemble aujourd'hui que nous sommes heureux. Nous sommes heureux. Alors, peut-être que, comme dira quelqu'un, il faut apprendre à vivre le jour présent comme un renouvellement, un recommencement, et pourquoi pas un aboutissement aussi. Ça y est, aujourd'hui, j'ai vaincu telle difficulté, j'ai vaincu telle peine, j'ai été sorti de mes souffrances. Là, aujourd'hui, j'ai obtenu une victoire. Demain, il y en aura une autre, certainement une autre encore. J'entendais le témoignage, je crois que c'est ce mois-ci, hein. Oui, c'est ce mois-ci qu'est le mois sans tabac. Vous avez entendu ça? C'est le mois sans tabac, hein. Voilà. Et donc, il y a des campagnes qui ont été faites. J'arrête ce mois-ci. Alors, il faut être accompagné. Vous avez des coachs. Vous avez tout ce qu'il faut, hein, pour ça. Et j'entendais une personne qui, à la radio, qui donnait ce témoignage pendant 28 ans. 28 ans de tabac. Et elle a essayé, mais quantité de fois, d'arrêter. Et elle n'y est jamais arrivée. Et là, elle rendait témoignage que c'était l'année dernière. Elle avait fait ce mois sans tabac. Et que ça y est, elle avait réussi à arrêter. Et écoutez bien, elle a dit, c'est ce mot qui m'a surpris, elle dit, je me considère en rémission. Ça m'a tout de suite fait penser à ceux qui ont le cancer. Quand on leur dit, vous êtes en rémission, on ne peut pas leur dire, vous êtes guéri. On leur dit, vous êtes en rémission. Ça va bien, mais bon, l'avenir dira. Et grâce à Dieu, beaucoup de ceux qui sont en rémission semblent aller vers une guérison complète. Mais on est prudent avec les mots quand même. C'est terrible. Alors que Dieu peut donner une victoire instantanément sur cette chose-là. Par exemple, le tabac, instantanément. On en a connu. À combien c'est arrivé ici d'avoir demandé à Dieu d'être guéri du tabac et d'en avoir été guéri instantanément? C'est arrivé? Il y en a pas mal quand même. Après, certains peut-être ont bataillé, lutté davantage. J'espère en tous les cas que si vous avez été tenu par cela et que vous ne vous en êtes pas sorti aussi rapidement de ça, j'espère que vous n'avez pas continué quand même, c'est-à-dire continuer à fumer. J'espère que vous avez continué à prier pour en être délivré, parce que Dieu peut le faire. Dieu est capable de le faire, bien évidemment. Il est capable d'agir. Alors, imaginez qu'aujourd'hui, c'est un aboutissement. Et imaginez qu'aujourd'hui, ça y est, vous êtes délivré. Quelqu'un a dit un jour, le bon moyen de détruire aujourd'hui, c'est en regrettant hier et en s'inquiétant pour demain. Le bon moyen pour détruire aujourd'hui, c'est en regrettant hier et en s'inquiétant pour demain. Alors souvenez-vous de ce que Jésus disait. Maintenant, on va voir quelques recommandations pour vivre heureux. C'est pour ça que j'ai appelé ça la recette du vrai bonheur. Et on a tout dans ce fameux texte de Moïse. Cette bénédiction prophétique sur les enfants de Jacob, on a tout. Alors, on ne va pas revenir dans le détail, ce serait bien évidemment beaucoup trop long, mais j'en ai retenu quelques-uns, malgré tout, quelques-uns intéressants. Il est dit, par exemple, du verset 2 au verset 4, j'ai donné comme titre « Aimer l'instruction », l'instruction que Dieu donne. Verset 2 au verset 4. L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti au milieu des saintes myriades, il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples, tous ses saints sont dans ta main, ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles, Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Amen. Je crois que ça commence par ça, et ça commence toujours comme ça, se tenir au pied de celui qui enseigne, se tenir au pied du maître. Vous avez un exemple dans le Nouveau Testament. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'est tenu au pied de Jésus? Marie, qui avait une sœur qui s'appelait Marthe. Et toutes les deux, on ne peut pas dire que l'une était plus spirituelle que l'autre, je ne pense pas. Je pense que toutes les deux avaient de bons sentiments. Mais le texte nous dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » On ne va pas blâmer la pauvre Marthe, parce que dites-moi, quand vous devez recevoir du monde à la maison, vous ne faites pas le ménage avant ? Vous n'allez pas dans les recoins en disant « je suis sûr qu'il va aller regarder derrière la porte ». Il n'ira pas regarder derrière la porte, évidemment pas. Mais on veut tellement que ce soit parfait. Et d'ailleurs, quand on sait qu'on va recevoir quelqu'un, on se dit « j'ai le temps de tout faire ». Ce qui fait que les dernières 24 heures sont terribles. Parce que vous n'en pouvez plus. Vous dites « mais ce n'est pas possible, il y avait encore ça ». Il y avait encore ça à faire, mais je ne l'avais pas vu. Mais c'était où ? Il y en avait de partout, le bazar. Alors vous avez deux solutions. Soit vous recevez personne, soit vous laissez comme ça. Ou alors vous faites tout le temps, un petit peu. Il vaut mieux faire tout le temps un petit peu que beaucoup d'un coup. Hein. Tenez par exemple, moi je n'ai pas la main verte, hein, ni les deux. Je ne suis vraiment pas bon à ça. Arroser des plantes, quand on me dit comment il faut faire, à quel rythme il faut le faire, ça je peux. Mais après, voir si elles sont bien, si elles vont bien, difficile. Toujours est-il que ça, je l'ai compris. Si j'ai une plante à la maison et que je dis, bon, je ne vais pas l'arroser tous les jours, toutes les semaines. Non, non, je vais l'arroser tous les 3 mois. Donc, je ne lui donne rien pendant 3 mois. Et après, je remplis la baignoire et je la plonge dedans pendant 48 heures. Je ne suis pas sûr qu'elle survive. J'ai raison. Hein. Merci. Hein. Au moins, ça, je sais. Ça ne marchera pas. Apparemment, il faut le faire tout le temps. Tout le temps, comme il faut. Enfin, bref, il y a des techniques, certainement. Je crois que pour notre âme, il en va de même. Hein. Il vaut mieux un peu tout le temps que rien un certain temps, pour ne pas dire trop longtemps, et beaucoup trop d'un coup, parce que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas non plus. Et je me dis que Marthe, elle veut recevoir Jésus à la maison. Évidemment, évidemment, demain, Jésus viendrait frapper à votre porte, ou un ange viendrait. Et vous savez que c'est un ange, j'aimerais bien dormir chez vous, prendre le repas du soir et le petit déjeuner. Mais qu'est-ce que vous n'allez pas faire ? On veut recevoir, on va mettre les petits plats dans les grands, on veut faire les choses en bien. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas spirituel, c'est au contraire parce qu'on l'est, parce qu'on veut honorer, parce qu'on veut faire bien. Et là, toutes les deux ont raison. Marthe et Marie, elles veulent profiter de Jésus. L'une, elle s'est dit, je veux qu'il se souvienne de ce temps que l'on va passer, de ce repas. Il s'en souviendra, même si ce n'est pas ça le plus important, mais quand même. Et Marie dit, moi, je veux me souvenir qu'il était là. Vous voyez la différence ? Je veux qu'il se souvienne qu'il est passé par là et je veux me souvenir qu'il était dans ma maison. Des fois, ça ne tient à pas grand-chose. Et je me dis, dans le fond, que Marthe et Marie ont toutes les deux de bons sentiments, mais visiblement, Marie a vu plus loin. Le repas, c'était bien. Mais qu'est-ce qu'on retiendra de sa venue dans la maison ? Dans le livre de Jérémie, il est dit au chapitre 23, vous connaissez peut-être ce verset, au chapitre 23, et le verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Je répète, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui brise le roc ?» Il leur a, de sa droite, envoyé le feu de la loi. Je crois que la parole de Dieu, c'est un feu, c'est un feu qui brûle, qui consume, qui embrase, une parole de feu pour des cœurs en feu. Que nos cœurs soient littéralement en feu. Je crois que tous les jours, on peut trouver dans la parole une inspiration, une révélation. Tous les jours, on peut trouver ça. Tous les jours, on peut trouver dans cette parole, cette révélation, cette inspiration. Si vous êtes à la maison, si vous vous ennuyez, ouvrez la Bible. Vous allez vite partir en voyage. Hein. Ah, vous allez vite partir en voyage. Hein. Vous n'allez pas vous ennuyer, ce n'est pas possible. Et si vous êtes las, Parce que vous dites, mais cette parole, elle est dure, elle est fermée, c'est un marteau, mais dans le mauvais sens, c'est moi qui prends les coups. Je ne comprends pas, elle est impénétrable. Demandez à Dieu de l'aide, qu'il vous éclaire, qu'il vous ouvre les yeux, surtout qu'il ouvre cette parole, ce saint livre. Je crois que Dieu est capable de se révéler à des enfants. Pourquoi cette parole nous serait-elle fermée? Ce n'est pas possible. Même si on est plus instruit, on n'est pas forcément plus simple et certainement pas, et peut-être même pas plus intelligent qu'un enfant. Alors il peut éclairer notre intelligence et nous faire voir cette parole. Alors la première recommandation pour vivre heureux, un des secrets du vrai bonheur, c'est d'aimer l'instruction de Dieu, d'aimer cette instruction-là et d'aller chercher auprès de Dieu cette instruction. La deuxième chose, c'est d'aimer la pureté. Alors là, c'est quand même assez sensible. Il est dit, donc un peu plus loin, au verset 9, toujours Deutéronome chapitre 33, ça a besoin d'une explication, cela. Lévi dit de son père et de sa mère, « Je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole et il garde ton alliance. » C'est assez dur d'entendre des mots comme ça, parce que derrière le mot pureté, j'y mettrai le mot intégrité, droiture, vérité, sainteté, consécration. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est très dur de choisir entre Dieu et ses amis. Et c'est encore plus dur, bien sûr, de choisir entre Dieu et sa famille. Pourquoi est-ce qu'il est possible que cet homme dise ça concernant cette famille-là? Tout simplement parce que vouloir plaire à Dieu conduira forcément à prendre des positions contre. Je vais vous donner quelques exemples. Dans l'Ancien Testament, vous avez l'histoire, dans le premier livre de Samuel, de cet homme qui a été prophète, juge, juste avant Samuel. Il s'appelait Élie. À ne pas confondre avec le prophète, c'en est un autre, Élie. Il nous est dit que cet homme, en général, on se transmettait le service, le sacerdoce de père en fils. Et donc les enfants étaient appelés, les deux enfants d'Élie étaient appelés à prendre la suite. Sauf que les deux enfants d'Élie n'ont pas du tout le caractère de leur père. Pas du tout le caractère, et même pas l'âme, l'esprit, le cœur, vraiment pas. À savoir que quand les gens venaient au sanctuaire, les enfants d'Élie se comportaient très mal. Ils volaient, ils mentaient, ils abusaient des gens, enfin, ils avaient des conduites outrageuses, voire violentes, on pourrait parler de viol tout court, c'était des situations épouvantables. Ça ne pouvait pas durer bien longtemps comme cela. Et Dieu va se mettre en colère, bien évidemment. Et Dieu va dire à Élie, je suis désolé, mais ce n'est pas tes enfants qui vont prendre la suite. Dans des conditions comme ça, c'est impossible. Voilà comment le jeune Samuel est arrivé à prendre cette position-là. Et Dieu va reprocher à Élie l'attitude de ses enfants. Et Élie va s'adresser à ses enfants. Et il va leur dire ceci. Il apprit qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la porte, à l'entrée de la tente d'assignation. Et il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pèche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pèche contre Dieu, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent pas la voix de leur père. » Je ne sais pas si le père, il a tapé du poing assez fort sur la table. Manifestement, pas. Pourquoi? Je vous dis cela parce qu'un peu plus loin, il nous est dit, et ça c'est le reproche que Dieu va faire à Élie, il va lui dire ceci, je retrouve la référence. « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi ?» Le problème, c'est ça. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi ? Alors, dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul dira ceci au chapitre 1er et au verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ça fait réfléchir quand même. Et puis Jésus dira dans un évangile au chapitre 10 et au verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Beaucoup ont très mal interprété ces versets en disant que plaire à Dieu, c'était abandonner les siens, abandonner sa famille. Ce ne sera jamais ça, c'est même plutôt le contraire. Quand on aime Dieu, il faut s'occuper de sa famille, bien évidemment. Le problème, ce n'est pas une question de préférence, c'est une question de priorité. Ça ne se situe pas au même niveau. Ça ne se situe pas au même niveau. Ce n'est pas une question de préférence. On ne préfère pas Dieu à notre famille, mais on a mis Dieu en premier dans notre vie. Et le reste vient après. Et il est évident que si notre relation avec Dieu, elle est spirituelle avant tout, notre relation avec notre famille, elle est humaine. Donc, quelque part, nos premières relations humaines, c'est avec notre famille. Si, d'ailleurs, la Bible dit, si quelqu'un renie sa famille, il est pire qu'un infidèle. Donc, on n'est pas là pour dire qu'il faut oublier sa famille. Mais je reviens sur ce texte que j'ai lu pour vous. Aimer la pureté. Lévi dit de son père et de sa mère, « Je ne les ai point vus ». Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, justement, les pères et les mères et les enfants des autres et de ses frères, ses neveux, etc., s'étaient éloignés de Dieu. Et Lévi avait dit, moi, je resterai attaché à Dieu. Alors, le choix est cruel, mais ce n'était pas de son fait. Ce n'est pas lui qui a décidé de rompre. Ce sont les autres, en s'éloignant de Dieu, qui se sont éloignés de celui qui est resté près de Dieu. Alors, quelquefois, il sera malheureusement inévitable de ressentir de tels effets, et Dieu sait que c'est douloureux, évidemment, quand l'on s'approche de Dieu, de sentir que ceux qui nous aiment s'en éloignent, s'éloignent de nous, et tout en s'éloignant de Dieu, finalement, ça nous fait de la peine. Et on dit, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu, ce n'est pas ce que j'ai désiré. Mais faites confiance au Seigneur, il peut ramener ceux qui sont loin, il peut ramener ceux qui s'égarent, et plus que tout, aimer la pureté. Si vous vous éloignez de la pureté, vous ne rendrez pas un bon témoignage à ceux qui vous sont proches. Et au lieu de les aider, ben vous leur ferez plutôt du tort. Parce qu'au bout d'un moment, ils diront, j'avais raison, c'était un feu de paille, ça lui est passé. Il est revenu à son bon sens, il ne retourne pas toutes les semaines à l'église, il est revenu vers nous, on le retrouve comme avant et on est bien content. Mais où sera la joie qu'il y a eu dans le ciel lorsque vous vous êtes donné à Dieu ? Je crois que pour rien au monde, bien aimé, il faut rompre notre relation avec Dieu. Et s'il fallait dire clairement et franchement à ceux que nous aimons quelle est notre priorité, ça n'enlèvera rien à notre préférence. Je crois qu'il faut comprendre que ce n'est pas qu'est-ce qui a le plus d'importance à nos yeux. Ce n'est pas ça la vraie question, c'est qu'est-ce qui est le plus important. Pas qu'est-ce qui a le plus d'importance. Mais qu'est-ce qui est le plus important ? C'est Dieu qui est le plus important. Et le reste va trouver sa place, bien évidemment. Et je crois que la Bible dit, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça nous enclin, bien évidemment, à ne pas nous en éloigner, mais à proclamer la pureté, la droiture et la vérité. Et puis, troisième secret du... Ça va, vous êtes d'accord avec ça ? Ou ça passe pas ? Si, ça passe quand même. Troisième aspect, aimer le service de Dieu. Et on le trouve au verset 18 et 19. C'est ce qui est dit sur Zabulon et Issacar. Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Issacar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Quand on décrypte cette prophétie, on comprend que Zabulon et Issacar ont décidé de devenir commerciaux. Ils ont décidé de faire des affaires. Donc l'un a acheté des bateaux, des navires, il est devenu armateur et il a fait ses affaires sur la mer. Donc il est devenu pêcheur, marin-pêcheur et peut-être même grand patron-pêcheur. Et puis Issachar, lui, a fait du commerce, il a ouvert des magasins, etc. Donc les affaires vont bien. Pas étonnant, hein ? Les affaires vont bien, ça marche. C'est curieux comme quelquefois... certains refusent de mélanger travail et témoignage. Quand je suis au boulot, je suis au boulot. Quand je suis sorti du boulot, j'ai le droit de dire et de penser ce que je veux. Je sais très bien que la société dans laquelle on vit a tendance à verrouiller de plus en plus, hein. Attention. D'ailleurs, c'est très étonnant, je me faisais la réflexion hier pendant la réunion de jeunesse, quand on évoquait le clergé et les laïcs. C'était ceux qui font profession, métier, de servir Dieu, et ceux qui vont aux offices, mais qui, eux, ne sont pas engagés, qui viennent parce qu'ils adhèrent, parce qu'ils croient. On les appelle les laïcs. Et c'est curieux, parce que la laïcité, aujourd'hui, c'est plutôt contre toute forme de croyance et de pratique religieuse. C'est curieux comme les mots changent de sens au fur et à mesure du temps. Le fait est que... certains, et avec les lois actuelles, il est bien difficile d'exprimer sa foi dans le cadre de son travail. Il faut bien séparer les choses. Là, je m'aperçois qu'ils ne séparent pas. Ils font du commerce et certainement qu'ils n'hésitent pas à dire « Gloire à Dieu !»« Sois béni, mon frère !»« Sois béni, ma sœur !» Une fois qu'ils ont vendu leurs marchandises et qu'ils s'en vont, etc. Ils demandent à Dieu la bénédiction sur ces gens-là. Alors, ça peut paraître un langage confus, c'est difficile à exprimer cela, peut-être encore plus aujourd'hui. Alors, si certains refusent de mélanger travail et témoignage, il faut reconnaître que c'est peut-être parce que d'autres l'ont fait à outrance, très maladroitement, très maladroitement. Il est évident qu'on ne peut pas dire et faire n'importe quoi, n'importe où, évidemment, évidemment. Mais à votre avis, est-ce qu'il n'y aura pas un point d'équilibre ? Un point d'équilibre. Dans ce sens que l'apôtre Paul dira, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Colossiens 3, 17. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, il est évident que chrétiens, argent, succès, n'ont pas souvent réussi. Ça n'a pas souvent réussi. Chrétiens, argent, succès. Au bout d'un moment, le chrétien s'est perdu dans cette histoire-là. Trop d'argent, trop de succès, je ne sais pas. Mais d'une certaine manière, il s'est bien souvent perdu. Et comme le disait quelqu'un, le diable a des armes tellement fortes et puissantes, il en a au moins trois, l'argent, le sexe et l'orgueil. Trois armes épouvantables qui peuvent faire tomber n'importe qui. Que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Mais le fait est que j'ai l'impression que chrétien, argent et succès, ça devrait pouvoir coller. Ça devrait. Pourquoi ? Dieu dit « l'or et l'argent m'appartiennent, après tout ». Et si vous êtes très riche et qu'avec cet argent, vous pouvez faire encore plus pour rendre témoignage, est-ce que ce n'est pas bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Certainement que ça l'est. Alors, je crois qu'il faut y rajouter évidemment de la piété, de la simplicité et de la sainteté. Et ça, cela, ces ingrédients-là seront évidemment les garants du succès. Comme ça, ça marchera. Ce qui fait que bien souvent, les choses ont foiré et que ces gens, parce qu'on en a connu, vous en avez peut-être connu, des gens qui ont réussi dans les affaires, des chrétiens qui ont réussi dans les affaires, ils ont disparu de l'univers chrétien, de l'univers évangélique, parce qu'ils étaient pris par une réunion ici, une réunion là-bas, une conférence à tel endroit, ils parcouraient le monde, ils ne cessaient d'être dans les hôtels, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, leur âme s'est littéralement desséchée. Ils avaient l'argent, ils avaient le succès, ils avaient réussi, et ils auraient pu emporter Dieu avec eux. Ils auraient pu emporter Dieu. Est-ce que ça n'aurait pas été extraordinaire que dans une conférence où ils avaient rassemblé peut-être les plus grands riches de la planète, ils aient pu, expliquant leur stratégie, comment ils avaient travaillé, ils aient pu dire « mais je ne suis rien, et ce que je suis, c'est un effet de la grâce de Dieu », ça n'aurait pas eu un impact, ça ? Je pense que oui. Hein. Parce que vous savez, les gens traitent les chrétiens de fous quand ils considèrent qu'ils n'ont pas réussi. Mais quand ces gens-là réussissent, on est prêt à tout entendre d'eux. Hein. Ouais, on est prêt à tout entendre d'eux. Dans le milieu du sport, c'est ce qui se passe. Quand les grands sportifs réussissent et qu'ils enlèvent un maillot ou qu'ils arborent un slogan « J'aime Jésus » ou que sais-je, eh bien là, on les applaudit parce qu'ils ont réussi. Finalement, la réussite, le succès, ça impose le respect, hein, d'une certaine manière. Eh bien, n'est-il pas possible pour un chrétien de réussir? Et Zabulon et Issachar sont même bénis par Moïse. Vous allez être bénis dans vos affaires. Vous allez réussir. Vous allez profiter des trésors cachés sur la terre, de l'abondance, de la mer. Et alors continuez dans vos courses, continuez. Mais n'oubliez jamais d'être saint, simple et pieux. Et comme cela, vous réussirez certainement et vous réussirez grandement. Alors que Dieu nous aide à ne pas viser petit, mais à viser haut, viser grand, viser glorieux. Et ce n'est pas pour nous, bien évidemment, c'est pour la gloire de Dieu que tout cela est possible. Donc Dieu n'est pas contre. Bien souvent, ce qui a raté, c'est parce que nous-mêmes, on s'en est une fois de plus écarté. Et puis, il faut évidemment aimer la présence de Dieu, bien évidemment. Et là, j'arrive vers ma conclusion avec les versets 24 et 25. Dans le chapitre 33 du Deutéronome, il est dit sur Hazer, il dit « Béni soit Hazer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain et que ta vigueur dure autant que tes jours. Amen. » Il y en a un autre qui se souvenait que plonger ses pieds dans l'huile était vraiment quelque chose de bon. C'est Job. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît? Job, chapitre 29. Job, chapitre 29, versets 4 à 6. Job, chapitre 29, versets 4 à 6. Vous êtes certainement sans oublier que quand on arrive au chapitre 29 du livre de Job, de l'eau a coulé sous les ponts, et des jours sont passés, peut-être même des semaines et des mois, dans la douleur, dans les difficultés, dans les troubles, dans les souffrances. Il y a énormément de souffrances dans le cœur de Job, et regardez ce qu'il dit. Job, chapitre 29, verset 4. « Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi, et que mes enfants m'entouraient, quand mes pieds se baigner dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. » Job se souvient de ces jours d'avant où la vie était belle. Richesse, joie, bonheur, santé, paix, sans souci. C'est quand on n'a plus ça qu'on réalise. Hein. Bizarre, des fois, la vie va bien quand même. Hein. On n'a pas trop de difficultés, mais on trouve que c'est normal. Puis d'un coup, quand on n'a plus ça, on réalise que tout ce qu'on avait était vraiment précieux. Bien-aimé, évidemment, la grâce et le salut, ça ne se mérite pas. Je crois que la présence de Dieu, qui ne se mérite pas non plus, mais qui se reçoit, ça s'entretient quand même. Ça s'entretient quand même, la présence de Dieu. J'aime bien cette expression qui est dit sur Hazer, « Que tes verrous soient de fer et d'airain. » Le fait est que, ça vous est peut-être déjà arrivé, on vit dans un endroit plus ou moins calme. Mais par principe, on ferme, non? Par principe, on ferme. J'espère que vous n'en êtes pas réduit à fermer la gâche principale, le verrou d'en haut, le verrou d'en bas et les trois barreaux. Hein. J'espère que ça va quand même. Hein. Il y a des endroits où on ne fait pas moins. Hein. Lorsque nous étions encore sur Nice, je me souviens d'une dame, c'était triste à entendre. Elle habitait dans un quartier très difficile qui était classé parmi la quinzaine des quartiers les plus à risque de France à l'époque. Donc, je ne vous dis pas la délinquance et la violence. En plein jour, les cambriolages avaient lieu. Eh bien, cette personne disait « Je pars le matin, je pars de chez moi, je descends au sous-sol, je prends ma voiture, je vais travailler. » Je rentre le soir, je mets ma voiture au garage, au sous-sol, j'appuie à mon étage, je rentre chez moi, je ferme ma clé, je ne sors plus. C'est triste, hein ? Une vie comme ça. Sortez plus de chez elle, été comme hiver, il fait jour, il fait nuit, elle avait tellement peur, tellement peur. Aujourd'hui, Je crois que ce n'est pas physiquement que l'on a besoin de bien verrouiller et que nos verrous soient de fer et d'airain, c'est-à-dire solides, solides, qu'on ne mette pas un coup de pied dedans et que tout soit arraché. Mais les verrous de nos cœurs, les verrous sur notre vie, sur notre conscience, sur notre cœur, sur notre âme, qu'ils soient bien solides, ces verrous-là, bien solides. Parce que voyez-vous, je pense que si ces verrous ne sont pas solides, au fur et à mesure que vont rentrer toutes sortes d'influences ou de mauvaises choses dans notre cœur, ben je crois que le Seigneur aura de moins en moins plaisir à venir nous rendre visite. Ce sera de plus en plus sale, ce sera de plus en plus désordonné, ça sentira de plus en plus mauvais, ben il ira ailleurs, hein. Il ne viendra pas. C'est pas logique, ça ? C'est logique, hein. Il n'aura plus envie de venir. Que nos verrous soient de fer et d'airain bien verrouillés. On doit faire cela. Et puis, il est dit, évidemment, de plonger ses pieds dans l'huile. Là, ça nous parle de l'onction, évidemment. Béni soit Dieu pour les dons spirituels que l'on a entendus ce matin. Et Emmanuel n'était pas là, mais David a été courageux, là. Hein. Voilà, il s'est lancé en français. Hein. Ouais. Mais quand ça brûle au-dedans de nous et qu'il y a un message à apporter, il faut le faire. Il faut le faire, évidemment. Il faut le faire. Je note quand même, cette onction et cette présence de Dieu, elle est quand même capitale. Il y a quelques mois de cela, on a parlé, vous vous souvenez, on avait parlé un dimanche matin de l'importance du parler en langue. Vous vous en souvenez ? Est-ce que quelque chose a changé pour vous ? Répondez pour vous, hein. Répondez au-dedans de votre cœur. Vous qui êtes baptisés de l'Esprit, vous qui parlez en langue, est-ce que vous parlez plus en langue aujourd'hui ? Et pourquoi on ne vous entend pas plus apporter des prophéties à l'Église ? Parce qu'il me semble qu'on n'entend pas guère plus de monde. On est d'accord sur le moment, et après, il n'y a rien qui se passe. Comment ça se fait ? C'est l'onction. Ça fait partie du Pâques, hein. C'est le Pâques, hein. C'est pas vendu ensemble, mais ça va ensemble. Le parler en langue, la vie de l'esprit, les dons spirituels, une parole de foi, une parole de connaissance, une parole de sagesse. Vous connaissez ce qu'il est dit dans 1 Corinthiens. Alors, j'en reviens à plonger ses pieds dans l'huile, l'effusion de l'esprit, être rempli jusqu'à sa plénitude, c'est quand même quelque chose d'important. Aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que la communication fait force de loi, la communication. Je suis persuadé que je peux dire, moi je ne suis pas du tout réseaux sociaux, c'est pas que je suis vieux, mais ça ne me plaît pas, j'aime pas. Je ne suis pas hyper communicant à ce niveau-là, ni cyber communicant. Vous ne me verrez pas beaucoup sur voilà. Les mails, oui, ça on est obligé. Mais je me rends compte que je pourrais vous sortir une phrase là, maintenant, elle va vous impacter plus ou moins. Mais si j'arrose les réseaux sociaux avec cette phrase, qui sera peut-être une phrase inspirée, belle, bien, mais voilà, quoi, c'est pas transcendant, elle peut faire le tour de la Terre et elle peut devenir exceptionnelle. Et je suis persuadé que ce sera à cause, pas grâce, mais à cause de la communication. Je vais vous donner un autre exemple. Dans la Bible, il y a une prière qui s'appelle la prière de Jabez. Prière de Jabez, tout le monde peut la lire depuis des milliers d'années. Sauf que depuis l'invention de l'imprimerie, évidemment, on ne remonte pas à 1000 ans en arrière. Mais depuis quelques siècles, on lit cette prière de Jabez, qui est formidable d'ailleurs, qui est très belle. Et à un moment donné, allez savoir pourquoi, à un moment donné, quelqu'un a écrit un bouquin sur cette prière. Il n'a fait que reprendre tous les versets et donner une explication. C'est bien écrit, franchement, c'est très bien, mais pardon de le dire comme ça, ce n'est pas une révélation nouvelle. Ça fait du bien, ça encourage, mais il y a des centaines de bouquins qui encouragent, qui font du bien. Je vous donne mon avis, mais moi, je suis peut-être un peu spécial. Le fait est que cette prière de Jabez, elle a fait le tour du monde. Et je ne m'explique pas pourquoi. Vous l'avez, la prière de Jabez pour les hommes. Allez comprendre pourquoi. La prière de Jabez pour les femmes. La prière de Jabez pour les enfants. Bientôt, il y aura la prière de Jabez pour les grands, pour les petits, pour les gros, pour les maigres. J'exagère, à peine. Elle a été lancée mais à des millions, à des dizaines de millions d'exemplaires dans des tas de formats différents. Ce qui lui a donné du pouvoir, le pouvoir de la communication. Et d'un coup, Quelqu'un dira, oh là là, cette prière, mais elle est formidable, alors qu'il a peut-être déjà lu 50 fois. Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas pu toucher son cœur à ce moment-là? Ne l'a-t-il pas demandé? Ne l'a-t-il pas désiré? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait qu'il a fallu cela? Alors tant mieux qu'elle ait été diffusée comme cela. Au moins, ça en a encouragé quelques-uns. Mais je crains que quand les réserves seront épuisées, que le réservoir sera à sec, on attende un autre élan de communication comme ça pour remettre du carburant dans la machine en disant « Allez, il faut que ça reparte ». Alors que vous avez tout, là, vous avez tout, absolument tout, pour être inspiré et renouvelé et encouragé jour après jour. Je vais vous donner un autre exemple. La musique a pris une place incroyable, là, ces 20 dernières années, dans le monde évangélique, la musique. À une époque, on aurait guère vu des réunions simplement liées avec, on va dire, de la musique, concerts, sous forme de concerts. Maintenant, ça existe. Et on se fait un bien fou, évidemment. La musique élève l'âme, la musique a toujours fait du bien, et vous la trouvez partout dans la Bible. Donc, évidemment, c'est exceptionnel, et c'est un moyen, un instrument que Dieu utilise. Mais jamais vous dire que la musique n'attire pas la présence de Dieu. Les chants n'attirent pas la présence de Dieu. Ce que la musique et les chants font, c'est qu'ils réjouissent le cœur de Dieu. On est bien d'accord. Vous lisez dans les psaumes, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. D'accord. Certains diront, oui, mais c'est parce qu'on a chanté qu'il est venu. Non. Mais si Dieu habite votre cœur, vos chants deviendront inspirés, et là, Dieu prendra plaisir à être au milieu de vous. Sinon, la musique, c'est de la musique, et les paroles, ce ne sont que des paroles. Hein, s'il n'y a pas une dimension spirituelle. Et vous, voyez-vous ce qui se passe aujourd'hui? C'est que finalement, certains apprécient leur temps de communion avec Dieu si la musique est bonne, s'il y a beaucoup de chants. Et dès que la musique et les chants s'arrêtent, on a l'impression que c'est comme un soufflet qui retombe, plus personne ne sait quoi dire. Non? Bon, pas ici, hein, puisqu'on a eu un bon temps de louange. Mais ça arrive, hein. Je ne suis pas fou, ça arrive. Et ça, c'est une dérive parce qu'on est dans l'ère de la communication. Et voyez-vous, on est en train de vous dire, si on communique bien, alors vous serez capable de vivre quelque chose de bien. Mais je suis désolé, la vraie communication, c'est celle qui vient de l'esprit. Ce n'est pas celle qu'on est capable de faire nous. Et Dieu sait qu'on est capable de faire de belles choses, et tant mieux d'ailleurs. Alors, à quel niveau se situe certainement la subtilité, là où il ne faut pas déraper? C'est sa présence, c'est la présence de l'onction, l'onction de Dieu, la présence de l'Esprit en nous qui va donner vie à nos louanges, frères et sœurs. C'est ça qui va donner vie à nos louanges. Et on est un peu surpris quand on se dit que pendant des dizaines d'années, en Chine notamment, les gens se sont réunis et ils n'avaient pas le droit de chanter parce que si on les entendait, la police arrivait, on les embarquait, ils finissaient dans un goulag quelconque. Donc, savez-vous ce qu'ils faisaient? Ils chantaient en mimant les paroles. C'est cruel quand même, hein, en mimant les paroles. Ils étaient 10, 15, 20, on n'entendait rien. Mais tout le monde chantait, adorait Dieu, mais il n'y avait aucun son qui sortait de leur bouche. Je suis persuadé que Dieu se plaisait à la louange de ses enfants. J'en suis sûr. Et voyez-vous, ça n'a pas empêché ces chrétiens qui ont fait ça pendant des dizaines d'années de voir sous leurs yeux maintenant un des plus beaux réveils du monde. Un des plus beaux réveils du monde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans la communication audible qu'on a excellé, c'est dans la communication spirituelle que l'on a excellé et Dieu a béni. Alors, je tiens vraiment, et voilà pourquoi je voulais terminer là-dessus, frères et sœurs, plongeons nos pieds dans l'huile. Plongeons nos pieds dans l'huile. Et si je viens au culte et que j'ai plongé mes pieds dans l'huile, ma prière, elle va enflammer l'auditoire. Mon chant, parce que je ne vais pas chanter plus fort que les autres, mais rien que cette présence-là va susciter quelque chose. Je suis toujours émerveillé quand j'entends ces témoignages. Pourquoi est-on obligé de dire ces témoignages d'avant? Ou des personnes entraient dans un lieu comme cela et ils disaient, lorsque je suis entré, j'ai senti la présence de Dieu et j'étais convaincu de péché. Waouh! Sans un mot. Là, on peut parler de communication, pas trop, hein, sans un mot. Mais Dieu a communiqué, Dieu a su parler à ce moment-là. Alors, bien-aimés, je conclurai avec un texte du livre des Proverbes. On va le lire ensemble parce que j'ai noté que les verbes... Donc, ça ne fait pas une phrase, ça. Hein. Même si on est polonais, ça ne fait pas une phrase. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut lire ensemble, Proverbes ? Chapitre 3. Proverbes, chapitre 3. Et à partir du verset 1er, la recette du vrai bonheur, aimer l'instruction, aimer la pureté, aimer le service de Dieu, aimer la présence de Dieu. C'est comme cela que Moïse a vu le bonheur du peuple d'Israël à venir, c'était prophétique. Et dans le livre des Proverbes, au chapitre 3 et au verset 1er, il est dit « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu et le bonheur. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût, de vin. Amen. Nous avons la recette du bonheur. Un jour, puis un autre jour, puis un autre jour, puis un autre jour, jusqu'à la fin. Et Dieu guidera nos vies. Amen. Se lève ensemble et on invoque son nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta fidélité. Nous sommes heureux d'avoir pu chanter ton nom. Nous sommes heureux d'avoir pu exprimer nos voix, exprimer ce que nos cœurs ressentent. Nous sommes heureux d'avoir entendu également tes conseils. Nous sommes heureux d'avoir été sensibles à la voix de l'Esprit et avoir été un instrument entre tes mains. Tout cela nous réjouit et quelle que soit la part que nous avons donnée à ce culte, il en demeurera gravé pour l'éternité. Je te rends grâce pour cela. Je te demande de nous garder encore bouillants, enflammés, embrasés, pour le service de Dieu, les jours sont sombres, mais ta grâce demeure, ta grâce est encore là. Merci pour ta fidélité, accompagne-nous encore, bénis nos cœurs et nos vies, change, Seigneur, notre vision si elle n'est pas bonne. Donne-nous du courage à prendre les bonnes décisions quand il faut le faire, et à comprendre ce qui est priorité, qui tu es, plus que tout ce que tu nous donnes. C'est bien cela qui a le plus de valeur. Alors merci de ta bénédiction et merci de ton secours. Fais de nous un instrument qui te plaise. Fais de nous un instrument qui glorifie ton nom. Fais de nous quelqu'un qui soit tout à ta gloire. Seigneur, nous voulons, par notre témoignage à la maison, au travail, là où nous habitons, refléter la gloire de Christ, être la lumière de Dieu sur la terre. Nous voulons, Seigneur, rien que par nos actions, notre présence, être un parfum qui exhale, le salut, la délivrance et la grâce que tu peux communiquer au monde. Merci de ta bonté, merci de ton onction. Tu béniras la réunion de tout à l'heure. Tu nous donnes l'envie, la joie, le désir de porter témoignage et d'être là pour glorifier ton nom encore. Merci, merci de ta bienveillance. À ton nom, gloire et honneur au siècle des siècles.